Merci d'être fidèle à RFI. 19h en temps universel, 21h à Paris, 23h à Tbilissi.
Baptiste Coulon.
Bonsoir à tous. À la une de cette édition internationale, les premiers résultats partiels des élections législatives en Géorgie. Scrutin déterminant pour l'avenir européen du pays. L'opposition pro-européenne revendique la victoire, tout comme le parti au pouvoir proche de Moscou. Nous serons à Tbilissi dès le début de ce journal. Condamnation et appel à la retenue après la représaille israélienne la nuit dernière en Iran. Plusieurs frappes sur des infrastructures militaires. L'Iran parle ce soir de 4 morts mais fait état de dégâts limités. Nous reviendrons en détail sur cette opération de l'armée israélienne dans un instant. Dans ce journal aussi, les cours de français pour les nouveaux arrivants au Québec, victimes de leur succès. Et en France, l'examen du budget qui se poursuit à l'Assemblée nationale. Plusieurs amendements votés ce samedi contre l'avis du gouvernement. Les premiers résultats des élections législatives en Géorgie ce soir. Plus de 3 millions de Géorgiens appelés aux urnes ce samedi. Scrutin crucial pour l'avenir du pays aux allures de référendum pour ou contre l'Europe. Alors que le parti au pouvoir rêve géorgien s'est rapproché du voisin russe. Robin Dussène, on vous retrouve en direct de Tbilissi, la capitale. Bonsoir. L'opposition pro-européenne et le parti au pouvoir revendiquent tous les deux la victoire ce soir.
Oui, et c'est bien ça le problème, c'est l'incertitude qui règne ici devant le Parlement géorgien où je me trouve. Dès la fermeture des bureaux de vote, les sondages de sortie d'urne ont pourtant donné des résultats très différents, ajoutant encore de la confusion chez les électeurs. Les soutiens du rêve géorgien ont célébré la victoire en paradant à moto et à coups de klaxon sur l'avenue Roustavéli, la grande avenue de Tbilissi, tandis que dans le même temps, la présidente Salomé Zourabichvili a annoncé sur son compte X la victoire de la Géorgie européenne, relayant un sondage donnant le rêve géorgien à seulement 40% des voix. Oui, mais voilà, selon la Commission nationale électorale qui publie les résultats officiels, on se dirige bien vers une majorité absolue du rêve géorgien de l'oligarque Bidzina Ivanishvili. Le dépouillement est désormais terminé dans près de 70% des bureaux de vote et selon les derniers chiffres, le parti au pouvoir est crédité de 53% des suffrages, loin devant la coalition pour le changement, 11%, et le mouvement national uni de l'ancien président Mikhail Saakashvili, 10%. Cependant, pour l'heure, rien n'est joué. Il n'y a que 100 000 voix d'écart entre le rêve géorgien et les quatre coalitions d'opposition. On attend donc les résultats définitifs avec fébrilité ici sur l'esplanade du Parlement. Pour l'instant, bien calme où l'opposition a prévu de se rassembler.
Merci à vous, merci Robin Dussène, en direct de Tbilissi. Ces élections législatives qui ont été émaillées d'actes de violence préoccupants d'après la présidente pro-européenne de Géorgie. Nous reviendrons bien sûr sur ces premiers résultats partiels dans nos prochains journaux. Les appels à la désescalade se multiplient un peu moins de 24 heures après les frappes israéliennes de la nuit dernière en Iran. Plusieurs sites militaires, notamment de la capitale Téhéran, visés par l'État hébreu dans sa riposte à l'attaque iranienne du 1er octobre. L'Union européenne appelle à la plus grande retenue, de même que l'Espagne. Le chef de l'ONU exprime sa profonde inquiétude. Notre détermination à nous défendre n'a pas de limite, répond le ministre iranien des Affaires étrangères. Téhéran qui évoque des dégâts limités et annonce désormais la mort de 4 militaires. Et ce soir, on en sait donc davantage sur l'opération menée par l'armée israélienne. À Jérusalem, les précisions de Michel Paul.
Repoussée à plusieurs reprises, notamment en raison des fuites au Pentagone des plans de l'attaque, la frappe israélienne repose sur un grand principe, toucher le plus grand nombre de cibles en territoire iranien sans provoquer nécessairement une nouvelle réponse de la part de Téhéran. En tout cas, les officiels israéliens se montrent très discrets sur les cibles qui ont été visées par une centaine de chasseurs-bombardiers accompagnés d'avions ravitailleurs à plus de 1600 km de leur base. Les médias ici citent des sources militaires anonymes qui expliquent que dans un premier temps, l'aviation israélienne a neutralisé une dizaine de batteries clés de la défense aérienne iranienne, notamment des S-300 russes aux abords de l'aéroport international de Téhéran, mais aussi des systèmes déployés en Syrie et en Irak. En tout, une vingtaine de sites ont été ciblés lors de vagues ultérieures, dont plusieurs fabriques de missiles et de drones. Selon des sources non confirmées, une des frappes visait Parchin, une base de missiles balistiques non loin de Téhéran, où se dérouleraient également des essais liés au programme nucléaire iranien. Michel Paul, Jérusalem, RFI.
Et notez que les États-Unis ont aussi réagi dans la journée évoquant des manœuvres d'autodéfense d'Israël. Washington informé de l'attaque mais pas directement impliqué selon un responsable de la défense américaine. Une attaque également condamnée par le Hamas palestinien. Le Hamas dont un membre de la branche armée a été tué dans un raid de l'armée israélienne ce samedi en Cisjordanie occupée. Dans la bande de Gaza, cette fois les pénuries de médicaments s'aggravent, indique le patron de l'Organisation mondiale de la santé. La situation est catastrophique dans le nord de l'enclave, alerte Tedros Adhanom Ghebreyesus. Des tensions toujours vives en mer de Chine entre Pékin et Jakarta ce samedi. L'Indonésie a refoulé pour la troisième fois cette semaine un navire des gardes-côtes chinois. C'est ce qu'annonce l'Agence de sécurité maritime indonésienne, navire qui est entré dans des eaux contestées par les deux États. C'est l'un des swing states qui pourrait bien sceller le sort de la présidentielle américaine. Le Michigan reçoit ce samedi les deux candidats à la Maison-Blanche, Kamala Harris et Donald Trump, à 10 jours d'un scrutin plus indécis que jamais. La candidate démocrate avec le couple Obama sur scène, le candidat républicain en meeting lui aussi, avant un grand rassemblement demain dimanche à New York avec ses partisans. RFI, il est 15h06 à Québec, au Canada. Québec, où les cours de francisation, d'apprentissage du français, sont victimes de leur succès. De plus en plus d'élèves sont inscrits. Résultat, un grand nombre d'écoles ont épuisé leur budget et mettent désormais des professeurs et même des élèves à la porte. Des milliers d'immigrants risquent donc de ne plus avoir accès à des classes de français. Plusieurs manifestations ont eu lieu devant des centres de francisation au Québec pour dénoncer cette situation. Reportage sur place de notre correspondante Pascale Guéricola.
Si ce n'est pas la francisation, qui va nous enseigner ici?
Arrivée du Mali il y a quelques mois, Mariam s'inquiète de l'état de la langue dans sa patrie d'adoption.
On veut toujours que les Français continuent au Canada ici, sinon les Anglais vont nous dominer ici encore.
Du jour au lendemain, des professeurs ont appris que leurs cours allaient prendre fin, faute d'argent public nécessaire. Dès mardi, tout s'arrête pour cet enseignant qui met le premier ministre du Québec face à ses contradictions.
M. Legault dit souvent qu'il a peur que le français disparaisse au Québec. Il n'arrête pas de dire que le français est menacé au Québec, puis en même temps, il coupe les budgets pour la francisation. Donc, c'est complètement incohérent. Moi, j'en reviens pas.
Selon lui, la main gauche ignore ce que fait la main droite, car dernièrement, le gouvernement du Québec a lancé une campagne publicitaire pour rappeler l'importance du français. Interpellé sur les fermetures de classes, le ministre de l'Immigration renvoie la balle à la structure administrative qui les gère, les accusant de mal administrer leurs fonds. Dans les faits, les écoles font face à davantage d'élèves car plus d'immigrants arrivent au Québec pour y travailler, sans malheureusement que les budgets pour apprendre la langue suivent. Pascal Guéricola, Québec. RFI.
Et nous en venons à l'actualité en France avec le débat sur le budget de l'année 2025. Il a été prolongé ce samedi à l'Assemblée nationale. Les députés examinent la partie recette du texte. Ils ont jusqu'à minuit ce soir avant un vote solennel prévu mardi dans l'hémicycle. Un délai qui ne pourra probablement pas être tenu car près de 2000 amendements restaient à examiner ce samedi. Et certains, Victorien Villaume, ont été adoptés contre l'avis du gouvernement.
Une entreprise de démolition. Voilà comment un député de la droite républicaine qualifie l'examen du budget 2025. Il faut dire que les revers s'enchaînent pour le gouvernement. Augmenter la taxation sur l'électricité, c'est non. Surtaxer de façon temporaire des très grandes entreprises, idem. Et même quand le gouvernement obtient une victoire, elle est à nuancer. Ce matin, les députés ont ainsi approuvé une contribution sur les entreprises de fret maritime, contribution souhaitée par le gouvernement, mais que les députés ont rendue pérenne. Un détricotage du fait des oppositions, gauche et extrême droite en tête, mais aussi, de façon plus étonnante, parfois des bancs du socle commun. Face à cette situation et aux très nombreux amendements qu'il reste à examiner, plus de 1500 d'ici ce soir minuit, le gouvernement, comme le craint l'opposition, pourrait être tenté d'abréger purement et simplement les discussions en activant le 49-3.
Victorien Villaume du service politique de RFI. On termine ce journal avec les sports et en l'occurrence le football. C'est ce soir le Classico en Espagne entre le Real Madrid de Kylian Mbappé et le FC Barcelone de Lamine Yamal. Le match vient tout juste de commencer. 8 minutes de jeu entre les deux équipes et toujours 0 partout. Voilà, vous savez tout. Merci à vous d'écouter RFI Radio France Internationale 21h10 ici à Paris, 19h10 en temps universel.